Nous sommes le premier lundi du mois, voici donc la rubrique avec l'espace associatif dans l'émission de la maison, l'espace associatif de Quimper-Cornouailles, en particulier Karine Vaillant, qui est chargée des questions de mutualisation, notamment de la mutualisation des emplois entre associations. Et aujourd'hui, nous abordons avec elle la question de la coopération entre associations. De quoi s'agit-il vraiment coopérer et comment réussir une vraie coopération ?
Quand on parle en fait de coopération, on essaye souvent de distinguer coopération et pratique collaborative. En fait, quand on parle, nous, de coopération entre associations, au-delà des statuts hein, qu'on choisira pour coopérer dans un second temps, dans un premier temps, on repose en fait cette nécessité d'être sur du coportage, de la coécriture et du pilotage conjoint. Quand on est en coopération, l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table en fait vont construire ensemble. Alors que quand on évoque la collaboration ou les pratiques collaboratives, on est plutôt sur des démarches en fait qui vont être contributives, c'est-à-dire que on n'aura pas obligatoirement dans le cadre de collaboration ou de pratiques collaboratives la capacité à agir sur le cadre et à construire ensemble les règles communes, mais plutôt d'apporter sur l'un ou l'autre des aspects du projet sa contribution. Donc on dit souvent que la coopération est faite de pratiques collaborative, mais que la coopération, c'est l'échelon du dessus par rapport à la collaboration, en fait, telle qu'on l'imagine. On fait souvent le parallèle entre, dans le cadre de la démocratie, là, on fait souvent le parallèle entre les démarches participatives et les consultations. Quand on est dans des démarches réellement participatives, on va être sur des logiques de coopération, d'équivalence. Et quand on est sur de la consultation, où chacun apporte son point de vue, et ben on va être sur des logiques plutôt collaboratives, quoi. Et on dit souvent aussi que, en fait, le statut associatif, lorsque l'on crée une association, c'est vraiment un premier acte de coopération parce que au moment de la rédaction en fait des statuts, quand ils sont rédigés collectivement, et bien c'est à ce moment-là qu'on va se donner justement le sens commun et les règles de fonctionnement commun. Et donc on est vraiment sur le premier acte de coopération au sein même d'une structure associative quand on rédige les statuts d'une association.
Et alors sur la coopération entre associations, est-ce que vous avez des exemples de types de coopération ?
Oui, alors, quand on parle de coopération entre associations, on va souvent évoquer des statuts. Alors, le cadre juridique et les modalités du projet, effectivement, vont influer sur la nature de la coopération et aussi le niveau de coopération, mais que on soit dans le cadre d'une entente sportive ou d'un groupement de moyens ou d'un groupement d'employeurs, on est sur des statuts du champ associatif qui sont des statuts qui permettent en tout cas qui ouvre le champ de la coopération. Après, quand on est sur les réseaux du numérique, sur les outils du libre, on dit souvent que les outils du libre illustrent en fait la collaboration parce qu'ils permettent justement des pratiques collaboratives. Par exemple, nous, sur la création d'une plateforme collaborative sur le partage de l'emploi, on s'est fait aider parce que ce sont des spécialistes en fait de la collaboration via le numérique. On s'est fait aider par le collectif Kyriad, qui du coup nous a permis de coopérer. Alors on a des exemples très concrets, par exemple sur le groupement d'employeurs au-delà du GEC qu'on a créé, que les points d'appui à la vie associative ont créé. On a par exemple
pour les auditeurs, le GEC, on va juste rappeler que c'est le groupement d'employeurs interassociatifs, donc entre l'espace associatif, le RESA, le sémaphore, et puis en fait ça voilà. Permet à des associations d'employer à plusieurs une personne par exemple, et on les a reçus déjà,
oui,
sur Radio Évasion.
Ouais. Donc ça c'est un exemple. Ça permet de partager un emploi. Ouais. Et pour illustrer aussi la coopération dans le cadre d'un autre groupement d'employeurs, on a les écoles de musique du pays de Quimperlé qui ont travaillé ensemble en fait dans une dynamique coopérative pour justement créer un groupement d'employeurs et réunir leurs salariés qui étaient du coup multi-employeurs, donc pour réunir l'ensemble de leurs salariés au sein d'un même groupement qui permet à leurs salariés d'avoir un seul interlocuteur au lieu d'avoir trois ou quatre contrats différents. Et donc là, on est sur un territoire précis. Et ça, c'est le résultat. Ça, le groupement d'employeurs incarne la coopération qui existait déjà entre les associations. On peut évoquer, par exemple, une entente entre deux clubs de sport. On peut évoquer, par exemple, l'entente entre le club de hand de Châteaulin et de Plomodierne, qui, grâce à cette coopération incarnée dans l'entente, ont réussi à embaucher un apprenti, en fait, pour partager entre les deux clubs, pour encadrer les filles, en fait, dans leur développement de leur pratique. Ou alors, on a encore le cas des centres nautiques entre Roscoff et Saint-Paul, qui, vont mutualiser, en fait, du personnel et des moyens, et qui, pour cela, sont aussi accompagnés, en fait, dans leur coopération. Donc, on a différentes natures et différents niveaux, en fait, de coopération qui peuvent aller en fonction du statut d'une collaboration ou d'une coopération autour, en fait, d'un appel à projet. Donc, ça va être de l'échange d'informations avec de l'écriture commune dans le cadre de la réponse d'un appel à projet, et aller jusqu'à, en fait, la création d'une nouvelle structure avec un nouvel objet qui va réunir les acteurs de deux ou de trois ou de quatre associations.
Oui, puis il n'y a pas que de la mutualisation d'emploi. En plus, il y a aussi, par exemple, à Morlaix, là, c'est carrément une construction d'un local commun, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, par exemple, si on reprend l'exemple du CHIO, donc là, c'est une coopération effective, en fait, entre trois associations, l'une plutôt sur le théâtre, l'une sur le cinéma et l'autre sur la musique, qui, au regard de l'ancienneté de leur coopération, ont fini par créer même, en tout cas, un nouveau lieu en collaboration avec la ville de Morlaix. Donc, effectivement, ça peut donner naissance à un bâtiment, ça peut donner naissance à de nouvelles entités juridiques. Enfin, tout dépend de la nature du projet, en fait, et de la nature de la coopération.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faut déjà comme prérequis pour réussir une coopération entre associations ?
Alors, la coopération, c'est avant tout une aventure humaine, hein, et les prérequis de l'expérience, de ce que j'ai pu croiser, en fait, je pense que on est vraiment sur la base d'une confiance qui doit pouvoir s'installer dans le temps, mais si la confiance existe déjà de longue date entre les structures, c'est plus facile. Et on peut aussi rentrer dans des logiques coopératives, même si on ne se connaît pas, mais il va falloir se donner le temps de la rencontre, de l'interconnaissance, et aussi arriver à se reconnaître à minima une culture, des valeurs communes ou au moins un sens commun autour du projet que l'on va porter ensemble. Alors ça, c'est un prérequis. Un autre, il va être celui, je pense, d'avoir des attentes clairement posées sur les attendus des uns et des autres, qui ne sont pas obligatoirement des attendus en termes de, comme vous avez évoqué, en termes de création de poste. Ça, on peut être aussi sur des attendus liés à la reconnaissance d'une implication territoriale. Peu importe quels que soient les attendus, mais il est très important d'être au clair, en fait, sur le sens du projet, ce que chacun va y mettre et ce que chacun en attend aussi en retour. Un autre élément, c'est celui de la transparence, c'est-à-dire que pour pouvoir faire émerger un projet issu d'une réelle coopération, il faut pouvoir être transparent dans toutes les avancées du projet. Alors, on va le revoir après, c'est pas obligatoirement tout communiquer sur tout à tout le monde, mais que chacun des acteurs puisse avoir la lecture du sens du projet, en fait, auquel il appartient, et la finalité est de comprendre l'ensemble du système des rouages. Donc, être sur des logiques de transparence qui facilite en fait l'implication de chacun, parce que chacun reconnaît et est légitime dans la fonction et dans ce à quoi il contribue en fait dans l'ensemble. Il y a aussi la question qui est reliée aussi à une volonté de laisser la place à, c'est-à-dire que pour coopérer, il faut reconnaître l'autre dans sa diversité, dans ses attentes aussi, et ça c'est valable à l'échelle des humains, mais aussi surtout valable dans les, mais on y reviendra tout à l'heure, dans les dynamiques collectives. Et il y a cette attention, en fait, cette posture d'écoute aussi et de compréhension des attendus des autres acteurs qui sont autour de la table et cette capacité à réellement laisser la place à quoi.
Se mettre à la place.
Cette logique, oui. Ouais, et il y a cette logique de réciprocité, c'est-à-dire que on est sur du donnant-donnant, on est sur du gagnant-gagnant, et on est aussi souvent sur des logiques apprenantes, c'est-à-dire je vais contribuer à créer, et dans ce processus de création, je vais aussi me nourrir, apprendre, et être valorisé, reconnu parce que ce à quoi je contribue, ce que j'apporte, quoi. Donc derrière, on va retrouver cette dimension un peu d'altruisme, cette capacité aussi à être attentif aux autres et à être souple aussi dans sa capacité à prendre en compte la diversité des attentes et à savoir poser le dénominateur commun. Et puis un autre élément, je pense que c'est le plaisir. Pour coopérer, il faut avoir du goût, il faut avoir du plaisir à être ensemble et à produire ensemble. Et c'est peut-être encore plus vrai dans le champ associatif où on est entre bénévoles, entre responsables associatifs, même si on porte les projets avec des salariés pour les structures qui ont des salariés. Et la dimension de la convivialité et du plaisir que l'on va trouver dans le projet que l'on construit ensemble, elle est importante, même si souvent on est sur des cultures ici où le plaisir n'est pas obligatoirement mis toujours en avant, mais je pense que c'est pour moi une des caractéristiques d'une coopération réussie, quoi.
Alors, ça fait pas mal de prérequis, mais en plus, qu'est-ce qui est spécifique aux associations dans tout ce qui concerne les postures, les méthodes nécessaires cette fois à la coopération réussie ?
Sur ce qui est spécifique aux associations, c'est on est dans une logique associative, on est dans une logique collective. Donc, en conséquence, en fait, la coopération interassociative, ça nécessite de faire travailler ensemble des collectifs. Donc, on rajoute en fait un peu à la complexité, en fait, c'est que il faut à la fois dans la coopération interassociative travailler sur la qualité de la relation en interne et la compréhension du projet porté collectivement avec l'autre structure au sein de sa propre structure, et en même temps, en fait, être attentif aux attentes et aux volontés, aux intentions de l'autre collectif. Donc, dans le cadre des coopérations interassociatives, on est vraiment dans cette logique de co-construire et d'être sur la construction de ces relations, parce qu'on dit aussi souvent que la coopération, elle est aussi liée sur la nature et la qualité des relations interpersonnelles qui se tissent au sein du collectif, et ce qui est vrai au sein d'une structure là doit être pouvoir se redévelopper dans les temps de rencontre avec les autres structures, avec l'autre ou les autres structures. Ce qui veut dire qu'il faut aussi donner du temps à l'informel et donner du temps à la place des rencontres entre personnes qui constituent en fait les deux ou trois associations qui vont coopérer ensemble pour pouvoir faire naître ce lien en fait et cet espace commun au-delà de l'objet même du projet qui va être porté. Donc la place de l'informel, elle est importante aussi dans le secteur associatif. Et puis aussi, il y a la question du sens commun. Il faut pouvoir, au regard des valeurs, chaque association, souvent est adossée en fait à un cadre de référence, à un cadre de valeurs. Et c'est comment on est vigilant dans la coopération interassociative à ce que les acteurs de chacune des associations se retrouvent dans ce sens commun posé autour de ce nouveau projet. Et après, il y a la question de la gouvernance, c'est-à-dire que dans les logiques coopératives, on est sur des principes d'égalité, en fait, et contrairement au modèle classique où on va être sur parfois sur des ressorts avec des leaders forts qu'on appelle les moteurs, sur lesquels on se repose souvent, dans les logiques plus coopérative, on va être sur des gouvernances partagées, sur du partage de leadership qui oblige en fait à réfléchir à la notion du pouvoir et à la notion des modalités de décision pour que on fasse corps commun et que même s'il y a une personne qui s'en va ou des personnes qui sont dans le projet continue quand même de vivre parce que on a fait prévaloir en fait la dynamique collective et que la construction du projet a été suffisamment partagée pour qu'il soit transmis et pour que le départ de l'un des membres ne soit pas pénalisant en fait sur la dynamique commune. Donc ça, c'est vraiment aussi un point d'attention fort quand on parle de coopération. C'est comment est-ce qu'on partage le leadership et comment se construisent les espaces de décision pour que les décisions soient réellement partagées. Donc là encore, hein, il y a maintenant des outils qui permettent des prises de décision en physique ou à distance ou de l'écriture commune. Enfin, sur tous les outils de la collaboration, on a maintenant et des modalités de travail qui permettent ça, mais même si on a ces outils-là, c'est avant tout une volonté en fait. Alors je dis souvent le partage de leadership ou la gouvernance, c'est pas toujours facile pour les égos surdimensionnés là, et que ça oblige aussi à un peu de modestie entre guillemets et comme on le disait tout à l'heure, d'altruisme et d'attention. Et ça, c'est valable vraiment dans le secteur associatif comme dans les autres secteurs. Et après, il y a la question de l'engagement. Pour coopérer, pour s'engager sur des projets coopératifs, effectivement, il faut avoir confiance dans l'autre structure, dans les acteurs de l'autre structure. Et du coup, la confiance, elle naît aussi de la volonté exprimée et du fait d'être rassuré sur l'engagement dans la dynamique de l'ensemble des acteurs qui vont porter le projet. Et donc, du coup, moi, je pense la coopération, c'est vraiment c'est un des enjeux majeurs du secteur associatif aujourd'hui, et c'est au-delà des statuts qu'on a évoqués tout à l'heure, tous les statuts qui permettent la mutualisation, la coopération, que ce soit des ententes dans le champ sportif, les groupements de moyens ou les plateformes numériques, enfin tous ces outils statutaires là, en fait, ils sont vraiment associés à cette capacité aujourd'hui à opérer ce changement culturel en fait, qui passe d'abandon de mon projet prévaut sur le projet de l'autre structure à comment on va aller regarder des complémentarités qui peuvent exister sur un territoire et sur nos projets respectifs pour construire un projet peut-être plus grand ou nourrir nos projets respectifs dans l'intérêt en fait du territoire ou dans l'intérêt de ce qu'on est ou de l'activité ou du champ sur lequel on est, que je pense au théâtre ou à la culture ou au sport. Donc c'est comment on sort de ces logiques de concurrence pour rentrer dans ces logiques de coopération, de co-construction, dans un intérêt général qui va au-delà de l'intérêt individuel, l'individuel là étant pensé comme l'intérêt de chacune des associations présentes autour du projet, quoi. Et en même temps, coopérer, c'est pas fusionner. Coopérer, c'est on reste chacun maître de son projet et on va aller coopérer sur des dimensions dans un intérêt qu'on s'est donné ensemble, qui a souvent pour finalité de conforter effectivement les structures qui participent ou de développer de nouvelles actions, comme une entente par exemple, ou comme un site comme celui du CIU à Morlaix, où on va avoir une capacité d'accueil qualitative supérieure à ce qu'ils pouvaient offrir aujourd'hui dans les lieux dans lesquels ils étaient par exemple, quoi.
Et pour les associations, un dispositif de secours vient d'être mis en place par l'État qui prévoit une aide de 5000 euros pour les associations les plus en difficulté, bien sûr. Pour en savoir plus, vous contactez l'espace associatif de Quimper-Cornouailles.